je vous souhaite la bienvenue ce soir donc, au sein des salons MOLA pour cette présentation de l'ouvrage « Comprendre la résistance en Aquitaine ». Je vous prie d'excuser Jean-Luc Mur, qui est le directeur du CRDP d'Aquitaine, qui est actuellement sur la route, qui revient de Pau, et donc nous rejoindra dans le courant de la présentation. Donc il m'a demandé de vous prier de l'excuser et de dire quelques mots d'introduction. Le CRDP d'Aquitaine, donc nous sommes un éditeur public, nous sommes l'éditeur de l'éducation nationale, et nous appartenons à un réseau, une fédération d'éditeurs, le CEREN, qui donc travaille sous la houlette du Centre national de documentation pédagogique, du CNDP. Voici qui nous sommes. Alors, d'où vient le projet? Quelle est son origine? Bien qu'étant un éditeur national, bien évidemment, nous sommes très ancrés dans notre réalité territoriale et nous avons des relations privilégiées avec la région, ce qui explique que nous avons répondu très favorablement et à une volonté de promotion de l'histoire régionale, surtout émanant d'un partenaire donc, dont l'engagement pour l'histoire est connu par de nombreuses manifestations culturelles. Tout le monde connaît le festival du film d'histoire de Pessac. Donc, le fruit d'un partenariat. Ce volume est le troisième d'une collection qui s'appelle « Comprendre ». Troisième numéro, deux numéros sont déjà parus, l'un consacré à la traite négrière et l'autre au développement durable. L'esprit de la collection est évidemment de prendre des sujets qui font problème, qui posent problème, et de montrer justement comment se déroulent les problématiques, quels sont les acteurs et les enjeux. Donc, comprendre la résistance aquitaine, ce volume, comme les autres de la collection, a une architecture particulière. Il se compose de deux parties. Une première partie qui est d'une synthèse écrite par un spécialiste, une synthèse scientifique, une vulgarisation au bon sens du terme des travaux les plus récents sur le sujet, et une deuxième partie qui est composée d'un corpus de documents très nombreux, très fournis. Ici, ils sont à peu près au nombre de 300, des supports très variés, iconographiques, des textes, des affiches. Et l'originalité, la particularité de la collection, c'est également le soin très attentif apporté aux corrélations, aux liens étroits entre les deux parties. Le plan est identique, les renvois sont nombreux, il y a vraiment une synergie très profonde entre les deux parties de l'ouvrage. Il s'accompagne également d'un CD sur lequel sont à disposition tous les documents figurant dans le contenu de l'ouvrage. Alors, au-delà de la collection, cet ouvrage a une particularité, c'est que c'est la première synthèse historique, un premier travail d'historien sur le sujet. Il y a des histoires de la résistance, approche nationale, approche départementale, hein, on connaît le travail de l'ARI, département par département. Pour l'Aquitaine, à ce jour, il n'y avait pas de synthèse, où il y avait essentiellement des paroles d'acteurs. Ici, nous avons un travail d'historien. C'est ce qui fait son originalité profonde. Un dernier mot, comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre dans la résistance en Aquitaine? Il y a sans doute à réaliser que l'Aquitaine a une spécificité, une particularité par rapport au territoire national dans cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, dans cette histoire de la résistance. C'est un territoire qui est d'abord partagé en deux par la ligne de démarcation. C'est un territoire qui peut apparaître comme une double frontière. D'abord, l'océan est une frontière qui bientôt va être fortifiée. Donc, une frontière, et il y a également la frontière espagnole, à la fois un obstacle et aussi un passage vers l'évasion, vers Londres, etc. Voilà, donc, un ouvrage original par sa conception, par son sujet et par son approche. Bon, moi, je n'en dirai pas plus. Je vais laisser la parole, bien sûr, aux auteurs. Mais auparavant, je voudrais laisser la parole à Madame Cocula, qui représente ici la région et qui est le partenaire de cette belle œuvre.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, effectivement, je viens vous parler au nom du président du Conseil régional, Alain Rousset, avec lequel j'ai le plaisir de travailler, qui est un grand amateur d'histoire. Vous avez cité tout à l'heure le Festival d'histoire et cinéma de Pessac, et si vous avez regardé les derniers thème du festival, il tourne autour de cela. Hein. Nous sommes en quelque sorte, nous entrons dans le sujet. Et moi, je vous remercie vraiment parce que c'est vrai qu'on était en attente d'un ouvrage important. Et je salue ici les auteurs, l'historien, puis les historiens, le rassembleur de documents. Je salue aussi tous les mémoires qui ont pu être faits dans les universités, quelles qu'elles soient, notamment à l'Université de Bordeaux 3. Donc il y a des éléments très importants, mais il y a aussi des recherches, mais il y a aussi des énigmes, mais il y a aussi des questions sans réponse. Et bien évidemment, quand on regarde l'ouvrage, on salue sa rigueur. On salue le souci qu'il a, qui est à la fois chronologique et régional, de cerner ce sujet qui est très difficile, parce que c'est vrai que la résistance, notamment, se dérobe à l'investigation, elle se dérobe aux documents, sinon elle ne serait pas résistance. Donc, à partir de ce moment-là, on a des difficultés. À partir de ce moment-là, on a pu parfois écrire des choses qui n'étaient pas tout à fait justes. À partir de ce moment-là, on a pu se dire que juste après la guerre, à force de vouloir cicatriser, on était prêt à oublier. Donc, votre travail est un travail courageux. Je salue ici ce courage et je salue aussi, si vous le voulez, la volonté de ne rien occulter, d'essayer de comprendre. Vous l'avez très bien dit et c'est vrai que le CRDP publie à l'heure actuelle des ouvrages importants qui sont destinés à comprendre. Curieusement, non pas curieusement, parce que c'est vrai que les anniversaires se bousculent en ce moment, mais quand je vais vous quitter, moi je vais revenir au Conseil régional et je vais avoir l'immense honneur, comme chaque année, mais cette année peut-être avec beaucoup plus de sensibilité encore et de tristesse, d'accueillir la nombreuse famille d'Aristide de Sousa Mendes, qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir et de revivre avec eux finalement ce temps d'une actualité qui a fait que ce personnage courageux dont vous parlez longuement dans votre ouvrage a pu figurer parmi les justes, même si on a mis du temps à savoir ce qui s'était passé. Donc tout cela, vraiment un très grand merci en notre nom à tous, au nom de tous les élus. Un très grand merci, avec simplement un regret, une inquiétude. C'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, notre enseignement de l'histoire devient un enseignement en peau de chagrin, un enseignement diminué, un enseignement dont les programmes font des impasses inquiétantes. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai un seul souci, qui est un souci, en quelque sorte, pas simplement de mémoire, mais qui est un souci civique, un souci de citoyenneté, de me dire que des ouvrages comme le vôtre, ils doivent être un fondement, pas simplement un fondement d'histoire, un fondement d'appréciation, un fondement de regard et un fondement de formation des citoyens au sens le plus noble du terme qui peut nous éloigner d'une actualité récente. Je vous remercie.
Merci. Bon, je crois que ces paroles vont droit au cœur de tous les historiens ici, dans cette salle. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux auteurs. Et tout d'abord à Michel Chaumet, que je salue un double titre comme auteur et puis aussi comme ancien directeur du CRDP d'Aquitaine. Donc, à toi.
Ben, la transition est toute trouvée, hein, effectivement, entre l'historien et l'ancien directeur du CRDP d'Aquitaine. Moi, je voudrais d'abord vous remercier tous qui êtes venus ce soir, qui avez, vous les braves, si je reprenais l'expression du général de Gaulle, qui avez résisté, c'est le cas de le dire, à l'attrait du soleil, à l'attrait des matchs de la Coupe du Monde, et qui vous vous êtes privés de la conférence de Daniel Cordier au musée d'Aquitaine. Bon, ça faisait vraiment beaucoup aujourd'hui, une actualité très très importante à Bordeaux sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour revenir à l'ouvrage, donc, c'est un ouvrage, je veux le dire sans fausse modestie, que j'ai voulu, effectivement. Que j'ai voulu parce que, à la fois, je pensais que les valeurs de la résistance sont vraiment des valeurs absolument fondamentales sur lesquelles on ne pouvait pas transiger à l'époque et sur lesquelles on ne peut pas transiger aujourd'hui, et que je souhaitais que ces valeurs soient connues et transmises aux jeunes générations. En même temps, c'est vrai que l'historien de la résistance que je suis au départ a eu la chance dans sa carrière professionnelle de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de projets. L'an dernier, par exemple, nous lancions un ouvrage tout à fait similaire sur la traite négrière, et ça fait aussi partie des ouvrages dont je suis fier de les avoir menés. Dans la mesure où je crois qu'ils éclairent un certain nombre de questions qui sont des questions difficiles, hein, parfois sensibles, parfois non éclairées encore véritablement par les historiens. Alors c'est dire que cet ouvrage, je l'ai voulu en fait pour deux types de publics différents, mais qui à mon avis vont se rejoindre dans l'intérêt par rapport au livre, c'est-à-dire les enseignants naturellement, parce que ce sont eux qui sont les acteurs de la transmission vers les élèves, mais aussi, je dirais, le grand public qui s'intéresse à cette période de l'histoire. Et on voit bien combien, en ce moment, hein, cette Seconde Guerre mondiale passionne nos contemporains, ce qui justifie encore plus, je crois, la nécessité de la transmission des valeurs de la résistance, qui est le premier objectif que porte cet ouvrage. Transmettre les valeurs de la résistance, qui, à mon avis, mais je ne suis plus dans l'éducation nationale, et donc ma parole est plus libre qu'elle n'a été à une certaine époque, s'accorde parfaitement avec les valeurs que transmettent les programmes de l'éducation nationale, encore que, comme Anne-Marie Cocula, j'éprouve quelques difficultés par rapport au nouveau programme, ou quelques inquiétudes plus exactement, quand je vois qu'en première, on risque de traiter quasiment tout le 19e et le 20e siècle d'affilée, ce qui évidemment réduira d'autant plus la part de l'enseignement de l'histoire de la résistance. Il n'en reste pas moins que le concours de la résistance, par exemple, remporte tous les ans un succès très très important, et qu'avec cet ouvrage et avec les documents qu'il comporte, je crois que nous offrons véritablement un outil de travail formidable pour les enseignants. Donc, donner de la matière historique aux enseignants et à travers eux aux élèves, mais aussi aux autres, avec deux éléments distincts qui composent le livre, mais comme Marie-Christine l'a dit, je vais passer rapidement pour que nous puissions gagner un peu de temps. Et puis, alors, c'est peut-être un peu plus nouveau, je souhaitais aussi qu'on dépoussière en quelque sorte l'image de la résistance. Parce que si vous interrogez les élèves d'aujourd'hui, la résistance, pour eux, c'est une affaire de vieux bonshommes qui racontent des trucs d'il y a très très longtemps, quasiment la préhistoire. Et autant ces personnes sont respectables, et Dieu sait que j'ai beaucoup d'admiration pour elles, autant il fallait, à travers l'ouvrage, qu'on leur présente l'image réelle de ce qu'était la résistance, c'est-à-dire des jeunes. Et des jeunes passionnés, engagés, prêts à livrer leur vie, s'il le fallait, pour le combat de la liberté. Donc, c'est en particulier à travers le choix des documents, un des principes que j'ai retenu, à savoir qu'on ne présente dans cet ouvrage, sauf exception rarissime, que des photos de l'époque, avec des résistants qui, pour la plupart, sont des très jeunes gens, parfois même simplement des adolescents. La composition de l'ouvrage, je n'y reviens pas, comme je disais à l'instant. Par contre, je vais peut-être laisser la parole à Cyril, puisque l'ouvrage se compose de deux parties. Une partie synthèse historique, c'est Cyril qui l'a faite. Une partie documentaire, commentaire des documents, en quelque sorte. C'est moi qui en ai pris la responsabilité, donc je pense qu'il est tout à fait normal que ce soit lui qui présente la première partie.
Bonjour. Donc, effectivement, comme vous l'a souligné Michel Chaumet, c'est un projet dont il a l'initiative. Il m'a donc contacté pour faire ce livre, qui, je trouvais, était une très belle idée, une très belle ambition, avec une sorte de feuille de route un petit peu difficile à appréhender au départ. C'était de prendre, effectivement, l'Aquitaine dans son ensemble, et non pas de faire des petites études départementales, d'essayer de voir les dynamiques, les événements qui avaient lié l'ensemble de cette région. Alors, je ne vais pas vous faire un descriptif exhaustif de cette région. Vous connaissez cette grande diversité géographique, composée de 5 départements, à la fois des littoraux, des départements frontaliers, avec la présence des Pyrénées, et puis des départements également qui sont situés un petit peu aux marges de la région et qui sont autant tourné vers Bordeaux que vers l'intérieur de notre pays. Donc, quelque chose qui rendait le travail un petit peu plus difficile. Du point de vue du contexte de la guerre et de l'occupation, prendre la région Aquitaine dans son ensemble rajoutait d'autres difficultés, à commencer par l'hypercentrisme de Bordeaux, Bordeaux capitale de la défaite. Bordeaux également une très grande ville portuaire avec l'histoire que l'on sait, et Bordeaux sur laquelle se focalisaient bon nombre d'administrations allemandes et bon nombre de regards allemands et italiens, on le voit dans le livre. La région est également transformée par les réalités de l'occupation, par la convention d'armistice, puisqu'elle est, elle est la seule région qui est réellement, la seule région de France qui est réellement fendue en deux par la ligne de démarcation, avec part approximativement égale de part et d'autre de cette ligne de démarcation. Ce qui amplifie d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure à propos des départements davantage aux marges, marges continentales, qui se tournent plus vers l'intérieur du pays. Alors, du point de vue de l'historien, si on laisse un petit peu la géographie de côté, j'avais également la même volonté que Michel de dépoussiérer un peu cette histoire de la résistance, même si je respecte éminemment l'historiographie de cette période et surtout l'historiographie récente qui a fait, depuis les événements que l'on sait sur cette, les divers procès mémoriels sur cette période, ont fait beaucoup progresser cette histoire. Moi, ma volonté à moi, c'était, au regard de ce qui s'était passé en Aquitaine et de ce que j'avais pu lire sur cette résistance aquitaine, de ce que je connaissais de cette résistance aquitaine et de sa représentation, j'ai envie de dire, médiatique et bibliographique, ma volonté était de sortir d'une histoire d'héroïsme et de responsabilité individuelle. J'avais envie de montrer la résistance comme une aventure collective, une aventure qui reposait non pas sur simplement un homme, un groupe, mais sur un ensemble de relations, et Dieu sait combien elles étaient importantes et nombreuses dans cette région. Donc, je disais que la maturité de l'historiographie permettait, à mon avis, ce processus. Il s'agissait en fait de mettre en perspective les réalités de l'occupation allemande, les actes du gouvernement de Vichy, et de prendre en considération l'entité régionale dans son ensemble, de manière à donner un éclairage nouveau sur une aventure humaine, et j'insiste beaucoup là-dessus dans ce livre, et j'y reviens en conclusion parce que j'aime insister, sur une aventure humaine, sociale, politique, militaire, collective, et qui a marqué, comme l'a dit Michel, marqué et continue de marquer le paysage politique français. Alors, pour faire rapidement sur le contenu de ma partie scientifique, il s'agit en fait d'une approche thématique, chronothématique et thématique, en fonction des types de résistance, en fonction des types de résistance dans un premier temps, et ensuite davantage départementalisé, si je puis dire, parce qu'à mesure que l'on approche de la libération, les choses, les groupes, les mouvements se structurent de manière départementale. Héritage révolutionnaire oblige. Alors, cette approche m'a permis, dès le départ, de mettre à jour la très grande diversité des pratiques résistantes en Aquitaine. Et surtout une résistance qui s'appuie sur de très importants réseaux qui préexistent à la résistance, qui préexiste à l'occupation, très importants réseaux politiques, sociaux, des réseaux de solidarité locale. Et ce mouvement est d'autant plus dynamique que le contexte, les difficultés du contexte font développer d'autres réseaux de sociabilité. Je pense notamment à tous ceux qui se développent autour de la ligne de démarcation, chose qui était complètement inédite, impensable avant l'armistice. Et donc là, on arrive à avoir des mouvements, des groupes qui se recomposent autour de cette barrière pour résister. Grande diversité, mais également, n'oublie pas le lourd tribut payé par cette résistance dans la région et sur les civils également qui appuient cette résistance. Alors la région a subi une très forte occupation allemande du fait de sa position stratégique qu'il est nullement besoin de décrire. Qui dit forte occupation allemande dit répression. Également, la région est connue pour, j'ai envie de dire, un dynamisme de son maréchalisme dans un premier temps, mais ensuite un légalisme aux prérogatives vichistes, si je puis dire, dans de nombreux domaines, les plus funestes qui soient, pensez à la déportation. Et cet ensemble répressif fait que la région, comme je le disais, a payé un lourd tribut. Arrestations, tortures, déportations et de nombreuses opérations punitives, de véritables ratissages, hein, comme ont pu le subir les départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et de l'Est de la Gironde. Il y en a eu également plus au sud. Évidemment, c'est une confrontation aussi inévitable que déséquilibrée, hein, face à une colonne allemande. Les groupes les mieux armés avaient peu de chance. Pour conclure, je dirais que ce qui m'a importé, ce qui a présidé à ma rédaction, c'est de remettre à sa juste place des engagements souvent modestes, pas toujours lisibles dans les livres et dans la lecture de cette période, mais des engagements qui s'inscrivent dans une volonté commune de nombreux résistants, car, j'y reviens, excusez-moi d'insister, cette aventure humaine est avant tout collective, et c'est son dynamisme, cet aspect collectif. Voilà. À toi, Michel.
Merci, Cyril. Alors c'est vrai que, de par sa composition assez originale, cet ouvrage marie deux éléments. D'une part, une synthèse scientifique qui est la première du genre. Hein. Je crois que Cyril a vraiment raison d'insister. Et puis un apport documentaire également, à la fois neuf et en même temps limité. Limité puisque je suis parti d'environ 1500 documents. Je dois dire que depuis 2 ans, dans mes nombreux déplacements en Aquitaine liés à ma fonction, je ne manquais jamais de ramasser, si je puis dire, les documents que je pouvais trouver ici ou là. Les archives départementales et municipales, d'ailleurs, et je salue tout particulièrement la directrice des archives municipales de Bordeaux, ont évidemment contribué beaucoup aux apports documentaires, mais il y en a d'autres, privés, publics, des documents texte, des documents, images. On n'a pas pu aller jusqu'à la vidéo, ce qui était un petit peu dommage parce que là, c'est très compliqué, mais en même temps, c'est très séduisant pour les élèves. Et vous le voyez sur les 237 documents qui sont dans le livre, qui ont été retenus après une sélection progressivement de plus en plus serrée. Eh bien, c'est quand même l'image hein, qui domine, parce que, naturellement, pour les élèves, c'est ce qu'il y a de plus séduisant. Et non seulement pour les élèves, mais pour nous tous, hein, d'une certaine façon. Mais les documents n'ont jamais été choisis par hasard. Hein, et je voudrais vous expliquer les principes de sélection des documents qui m'ont guidé. Alors, je le disais tout à l'heure, des documents d'époque, bien sûr. Des documents qui visaient à replacer la résistance dans son contexte. Ce qui fait que, malgré le titre « Comprendre la résistance en Aquitaine », on ne parle pas que de la résistance qu'on pourrait imaginer être se résumer à des maquis, par exemple. Hein. On va bien au-delà et on rappelle un peu le contexte, en particulier l'occupation militaire, hein, qui est quand même très prégnante, et tout particulièrement, évidemment, à Bordeaux. L'équilibre géographique aussi a été volontairement respecté, non pas pour ne pas s'attirer les foudres des Périgourdins ou des Bas-Pyrénéens, comme on disait à l'époque, mais parce que cette résistance prend des visages différents, quoi qu'il y ait des points communs, entre les différentes composantes du territoire aquitain. Et Dieu sait que ce territoire est varié. J'en dirai deux mots tout à l'heure. Et puis surtout, le principe fondamental, c'est que les documents choisis sont des documents qui donnent du sens, qui ne sont pas simplement des documents illustratifs, dans la plupart des cas, en tous les cas, mais des documents qui visent à éclairer une réalité qui est extrêmement complexe. Parce que, Cyril l'a dit, c'est une aventure collective avec, évidemment, des engagements individuels qu'on ne saurait nier. Mais cette collectivité en action, si on peut dire, hein, de la résistance, elle est fragmentée en de nombreux réseaux, de nombreux mouvements. Et il faudra du temps avant que tout cela se recompose pour aller dans un sens qui est celui de la libération. Donc il y a une très grande complexité de la résistance. Et tout naturellement, il fallait rendre compte de cette complexité tout en l'éclairant pour que, à la fois, les enseignants, les élèves, le grand public trouve du sens. D'où le mot « comprendre » la résistance en Aquitaine, parce qu'il existe évidemment de très nombreux autres ouvrages sur tel ou tel aspect de la résistance. Et il faut bien le dire qu'au bout d'un certain temps, il y a une telle avalanche de noms, de lieux et d'événements qu'on perd un petit peu le fil de tout ça. Or, il y a un fil, naturellement. C'est évidemment le combat pour la liberté du territoire, mais aussi le combat pour la liberté tout court, le combat contre le fascisme nazi, hein, en l'occurrence. Alors, pour terminer, parce que nous souhaitons évidemment vous laisser la parole et pouvoir répondre à un certain nombre de questions, je voudrais insister sur ce qu'il me semble qu'il peut y avoir de nouveaux apports dans cette édition par rapport à des ouvrages plus anciens, même si, il faut bien le dire, il n'y a pas d'ouvrages équivalents. Mais par contre, il y a de très nombreux ouvrages, témoignages ou autres histoires départementales, en particulier de la résistance. Alors, premier point, nous avons, je crois, revalorisé, ou en tous les cas tenté de revaloriser le rôle de la résistance étrangère. C'est quelque chose qu'on a trop tendance à oublier, mais les premiers résistants en Gironde, pratiquement, ce sont les républicains espagnols. Et ça, très très tôt, c'est dès le mois de juillet, août 1940, qu'on commence à pourchasser les républicains espagnols parce qu'ils ont des réflexes de résistance par rapport, évidemment, à ce qu'ils ont connu en Espagne peu avant. Même chose au niveau des Italiens, des immigrés italiens, en particulier dans le Lot-et-Garonne. La résistance lot-et-garonnaise est presque d'abord et avant tout une résistance immigrée italienne. Et je crois que les documents que nous publions en apportent véritablement la preuve. Je rajouterais aussi que la présence des Anglais, des Canadiens, des Néo-Zélandais, sans parler des Américains in fine, a souvent été occultée. Et je voudrais là insister sur le rôle majeur, à mon sens, des équipes SOE. Alors, je ne sais pas si je vais dire SOE ou SOI. SOI, Special Operation Executive, c'est, vous savez, cette instance créée par Churchill en juillet 40 pour envoyer, en quelque sorte, des missionnaires aider la résistance française dans la logistique, dans les instructions militaires, et pour permettre à cette résistance de s'étoffer. Alors, il y a trois responsables, ou plus exactement trois groupes SOE qui ont joué un rôle majeur en Aquitaine. C'est d'abord, ici à Bordeaux, Claude de Bessac, qui est ensuite remplacé par Roger Land, qui en fait apparaît pratiquement au moment de la libération comme le libérateur de Bordeaux. C'est extraordinaire, quoi. Et j'y reviendrai si vous souhaitez qu'on approfondisse. C'est sur les Landes, le Lot-et-Garonne et également le Gers, c'est hors du territoire aquitain, mais à l'époque, ces frontières administratives n'existent pas véritablement. C'est George Starr qui, avec le réseau Wheelwright, a composé le plus grand réseau anglo-français, en quelque sorte, de résistance. Et c'est relativement peu connu. Et puis, sur le Périgord et le Limousin, c'est le rôle plus tardif, il faut bien le dire, de Jacques Poirier. Je reviens un instant sur George Starr pour indiquer quand même qu'il a tenu pratiquement 2 ans sans être débusqué ni par la Gestapo ni par la police française. Troisième apport, me semble-t-il, peut-être un peu iconoclaste, mais pourquoi pas, nous avons relativisé l'affaire Grand Clément. On n'a pas parlé jusqu'à présent, mais attendez certainement au virage, parce que l'affaire Grand Clément, qui a son importance, bien sûr, pour expliquer un certain nombre de choses à Bordeaux, ça n'est pas toute la résistance. Et focaliser sur l'affaire Grand Clément, c'est quelque part nier les autres résistants, des autres mouvements, des autres lieux. Et de ce point de vue-là, je pense que ça aurait été une erreur de perspective historique. Et puis, disons-le tout net, notre analyse de l'affaire Grand Clément, du rôle de Grand Clément, va dans le sens qui a été infléchi il y a quelques années, il y a déjà 10-15 ans. Nous ne pensons pas que Grand Clément, mais on pourra en discuter longuement, soit nécessairement le traître qu'on a présenté. Quatrième point, nous avons, Cyril l'a dit, je vais passer rapidement, essayer de marquer la différence de la résistance entre les territoires. Bordeaux et les Landes, c'est l'OCM, donc c'est Grand Clément et les autres, parce qu'il n'y a pas que lui. Les Pyrénées-Atlantiques, c'est essentiellement pendant très longtemps le passage des Pyrénées, qui justifie cette forme de résistance particulière. Mais c'est aussi la naissance du corps franc-pommiès, qui est parti, et de Laura, qui est particulièrement mise en valeur, pas très loin d'ici, au centre Jean Moulin. La résistance italienne en Lot-et-Garonne, je l'ai dit tout à l'heure, d'inspiration très fortement communiste, comme d'ailleurs les républicains espagnols. Et puis, en Périgord, la puissance et la diversité des organisations de résistance qui ont eu affaire à une répression absolument terrible. On n'a pas idée de ce qu'est la répression en Périgord, avec successivement quand même la division Bremer qui est envoyée spécialement contre le Périgord pour tuer du résistant, tellement cette région s'agite. Et puis ensuite la division d'Asreich qui n'a pas évidemment que ce rôle-là, mais qui, passant le Périgord, fait également des dégâts considérables. Et la fond, j'en oublie encore. On a publié par exemple le document assez extraordinaire que m'a transmis Guy Penaud sur les fusillés de Tonneins, par exemple. Quand on regarde ce qui s'est passé dans cette bourgade, petite ville de Tonneins, c'est ahurissant. En l'espace de 6 mois, des colonnes répressives en permanence qui viennent s'attaquer à la résistance locale. Encore un autre point, et j'en terminerai ensuite avec un dernier. Nous montrons aussi, ce qui n'a peut-être pas été toujours le cas, les débordements de la libération, parce que c'est la réalité. Débordements qui prennent plusieurs formes, naturellement, un certain nombre d'exécutions sommaires. Bon, là, c'est évidemment difficile de trouver les documents, enfin, il y en a quelques-uns. C'est les femmes tondues, et je crois que c'est peut-être bien la première fois qu'on publie... Je dis peut-être une bêtise, je ne vais pas vérifier, mais je crois que c'est la première fois qu'on publie des photos de femmes tondues à la Libération, et on a eu le choix, il y en avait un certain nombre. Et puis aussi, sur Bordeaux en particulier, la contestation du pouvoir gaulliste. Le pouvoir du général de Gaulle ne s'installe pas comme ça à Bordeaux, loin de là. Et vous connaissez peut-être cette altercation fameuse entre le général de Gaulle qui, le 17 septembre 1944, si je ne me trompe, vient visiter Bordeaux et qui voit en face de lui Roger Land, donc le véritable libérateur, entre guillemets, de Bordeaux.
En uniforme anglais.
En uniforme anglais, qui plus est, parce que malgré son nom typiquement aquitain, il est anglais, et qui lui donne 24 heures pour quitter le territoire national. Parce que... il y a vraiment une difficulté d'installation du pouvoir, du nouveau pouvoir gaulliste. Enfin, j'en terminerai par là, nous avons aussi pensé utile, aujourd'hui, 65 ou 6 ans après la libération, d'évoquer la mémoire de la résistance dans ses différentes formes, les monuments, les salons. Premier salon de la résistance à Périgueux il y a 3 ans, je crois, c'est véritablement une nouveauté. Et puis, naturellement, quand on s'adresse à des enseignants, le concours de la résistance, cette mémoire de la résistance me semble très importante et j'espère, d'une certaine façon, avoir aussi contribué à la transmettre, cette mémoire, et surtout à faire de l'histoire, parce que on parle souvent du devoir de mémoire. Bon, c'est assez bien gentil. Ça ne pourra pas durer très longtemps, parce que la mémoire, elle est portée par des témoins, et à un certain moment, les témoins disparaissent et on passe donc à ce moment-là le relais aux historiens. Donc ce qui est important au-delà du devoir de mémoire, c'est bien le devoir d'histoire. Et si nous avons pu contribuer à transmettre donc les valeurs qui ont fait que des jeunes Aquitains, au péril de leur vie, se sont lancés dans cette aventure extraordinaire qu'est la résistance, eh bien je crois que nous aurons en partie réussi notre pari.